Nous allons prier pour recommander notre temps entre les mains de notre Père qui nous a accordé la grâce d'être là. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci. D'abord pour le souffle de vie que tu nous accordes encore jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la force et encore merci pour la foi qui nous permet de continuer à te servir malgré l'adversité dans ce monde. Malgré peut-être la maladie, malgré les difficultés, mais Seigneur, nous sommes encore là parce que c'est toi qui nous tiens, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous donne la force de persévérer. Et voilà pourquoi nous voulons t'exprimer nos reconnaissances. Seigneur, merci que nous voulons ouvrir ta parole. Tu sais, nous savons que notre connaissance est limitée, très limitée. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre ta parole. Et Seigneur, nous savons que sans ton aide, nous ne pourrions pas y arriver. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de toi et merci de nous visiter dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, le thème de ce soir que nous allons partager, en fait, c'est ce qu'un chrétien doit connaître. Et pourquoi ce thème? C'est que nous constatons tous que par ces temps qui courent, beaucoup de bien-aimés sont plus ou moins ballottés par des doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Et nous nous souvenons de ce passage que nous pouvons déjà lire hein, dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 1. On nous dit « Mais l'Esprit dit expressément ». Expressément. Donc il n'est pas passé par quatre chemins. Il dit expressément « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits, pardon, séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà ce qui est dit ici. Il y a des faux docteurs qui sont très nombreux et dont l'hypocrisie va les amener à perturber les enfants de Dieu, à les entraîner dans le mauvais chemin, alors que le Seigneur a accompli un acte merveilleux. Notre Père, l'Éternel, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, afin que nous ayons la vie, afin que nous héritions de ce royaume qui est à venir. Et on voit quelquefois certains serviteurs qui vont annoncer un royaume qui existe déjà, ce qui est faux. Et c'est pour cela que nous allons déjà revenir sur ce qu'est un chrétien. Parce que un adage dit que celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne pourra jamais savoir où il va. Nous sommes en train de nous orienter vers quelque chose. Mais si nous ne savons pas d'où nous venons, nous pouvons être facilement perturbés. C'est pour cela que nous allons prendre déjà un premier passage dans la Bible. Avant les chrétiens, nous n'avons pas oublié qu'il y avait les Juifs, ce peuple que le Seigneur a élu. Nous lisons dans Exode chapitre 19, verset 5, ce que le Seigneur a voulu faire avec nos prédécesseurs. Exode chapitre 19, verset 5, qui nous dit ceci. Donc là, c'est lorsque la loi, le peuple est à Sinaï, hein, la loi devait être donnée. Le Seigneur, l'Éternel dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, » on voit bien, c'est une condition, hein, « si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Voilà une belle promesse que le Seigneur a faite. Mais c'est une promesse, une parole qui est vraiment conditionnée. Il fallait obéir à la parole pour être vraiment ce peuple, le sacrificateur, une nation sainte pour Dieu. Mais nous allons voir la suite. Si on parcourt un peu, nous allons prendre le texte qui est dans Osée. Osée chapitre 4, verset 6, c'est un texte que nous connaissons parfaitement. Mais nous allons faire attention à sa lecture. Hein. Osée chapitre 4, verset 6. Et nous allons voir vers la fin ce que dit ce passage. On nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc on a vu tout à l'heure dans Exode 19, il est question de sacerdoce, un peuple de sacrificateurs. Et ici, le Seigneur dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et nous connaissons la suite. Après la venue de Jésus, on peut retrouver ce texte, ce fameux texte dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Bon, qu'on retrouve aussi dans Apocalypse 1, hein, Apocalypse 9. Apocalypse 5, pardon, verset 9. Qui nous dit ceci. Donc ce sont les quatre êtres vivants et les 24 vieillards. On nous dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà cette merveilleuse parole que le Seigneur nous adresse. Et nous savons que le peuple d'Israël a été écarté pour un temps, c'est ce que déclare la parole. Donc ils ont été dépouillés de leur sacerdoce, et maintenant c'est nous qui sommes dans ce service-là. Et nous savons que ce sacerdoce que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas un sacerdoce qui est assorti de conditions, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Non, il n'y a pas de conditions. Mais pourquoi il n'y a pas de conditions? Parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a accompli cette condition-là à la croix. Et il est important que nous connaissions quelques éléments importants qui vont nous emmener à être solidement ancrés dans la parole, à ne pas être distraits, à nous concentrer sur ce que notre Père nous montre. Amen. Nous allons parler de trois éléments. Le premier, ça sera la justification. C'est important de revenir là-dessus. Et le deuxième élément, qui est, je dirais, la plus grande des bénédictions, qui n'est pas toujours connue des bien-aimés, c'est l'adoption. Parce que l'adoption, nous le savons, c'est ce qui nous donne le droit d'appeler ce Dieu infini notre Père. Et cela va nous emmener à ne pas nous inquiéter. Lorsque les choses vont mal, on va demander à certaines personnes de semer pour recevoir la bénédiction. C'est vraiment un conseil à ne pas donner. Emmener les personnes à agir selon l'amour, cela n'est pas conseillé. Ils vont conseiller des techniques à nos bien-aimés afin d'arracher, comme ils le disent, entre guillemets, d'arracher la bénédiction, ce qui n'est pas correct. La relation que notre Père veut établir avec ses enfants, c'est une relation fondée sur l'amour et rien que sur l'amour. Et nous allons voir comment notre Père l'a démontré et vers la fin, le quatrième point que nous allons développer, ça sera vraiment le sacerdoce, le service. Et ça sera un service qui sera fondé sur l'amour de Dieu. Donc nous allons prendre le premier passage qui concerne la justification. C'est dans Romains chapitre 8, verset 30. Ce sont des versets que nous connaissons tous, hein, mais... Comme je l'avais dit à certains bien-aimés, avant, il m'arrivait de lire des versets comme ça, par cœur, essayer de retenir des versets, sans en connaître vraiment la profondeur, alors qu'ils sont simples et pleins de force. Mais nous lisons avec légèreté. Et je vais nous inviter à lire, à peser chaque mot, Il n'y a pas de mystère dans cela. Romains chapitre 8, verset 30, qui nous dit ceci. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous avons déjà la gloire de notre Père sur notre tête. Même si cette gloire-là n'est pas encore manifestée, mais nous l'avons déjà. Et nous voyons certains rechercher la gloire humaine à travers des biens, à travers des richesses. Certains serviteurs qui se battent, ils se disent serviteurs de Dieu. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit être à l'image de Dieu, glorieux, avec des biens. Alors que ce n'est pas ça. La gloire de notre Père n'est pas une gloire qui ressemble à celle que l'on trouve sur la terre. Ce n'est pas la même chose. Donc Dieu nous a déjà glorifiés, il l'a dit ici. Dieu nous a justifiés. Et nous allons voir aussi dans l'Ancien Testament ce qui se passait. À l'époque, dans Deutéronome 25, à partir du verset 1er, nous allons lire, on va essayer de prendre quelques passages un peu rapidement. Deutéronome chapitre 25, verset 1er. Qui nous dit ceci. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. On condamnera le coupable. Donc le jugement a toujours existé. Et nous savons que depuis le péché de notre aîné, de notre père Adam, nous avons hérité ce péché-là. Et donc nous sommes tous coupables devant Dieu. C'est ce que annonce Romains 3. Mais notre Seigneur va accomplir cet acte qui va nous enlever cette condamnation. On a l'habitude d'entendre parler de cela, que notre condamnation a été effacée. Le Seigneur nous a justifiés. Mais bien-aimés, je nous invite à considérer cela en profondeur, sérieusement. Nous étions coupables. Et Romains 10, verset 20 aussi dit plus ou moins la même chose. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous ne cherchions même pas Dieu. Et Dieu est venu vers nous. Il a dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est ce qu'il a dit. Il est venu nous chercher. Et en plus de cela, il a posé l'acte qui nous permet d'être purs devant notre Père. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit juste. Amen. Il ne nous voit pas pécheurs, il nous voit juste. C'est la parole qui le dit. Mais pourquoi il nous voit juste? C'est parce qu'il nous voit à travers Jésus-Christ. Pas par nous-mêmes. Nous savons que par nous-mêmes, nous portons le péché. Il nous arrive de nous tromper. Mais Dieu nous a déclarés justes. C'est ce que nous allons lire. Romains chapitre 4, verset 1 à 5. Romains chapitre 4, verset 1 à 5, qui nous dit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Donc ce ne sont pas nos œuvres. Si nous nous battons, essayons d'obtenir une quelconque justification par nos œuvres, nous nous trompons. C'est que la justification vient même avant même que nous entrions dans cette maison. Dieu a ordonné la justification de nous qui avons été appelés. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Romains 8, verset 30. Elle vient avant. Et on peut amener certaines personnes, on peut leur dire, donner des faux enseignements, dire que non, que tu es constamment, si t'arrive telle chose, c'est peut-être parce qu'il y a telle chose qui est encore sur toi. Alors que nous sommes tous justifiés par notre Père. Mais vers la fin, nous allons parler de la sanctification qui est aussi un autre point. La justification vient avant. Donc il faut le préciser. Et la justification, un autre point je voudrais vous présenter, c'est il vient de l'imputation. Et qu'est-ce que l'imputation? Nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Nous allons lire quand même quelques versets, de nombreux versets. Ça nous permettra peut-être de noter quelques passages. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice, pour que nous soyons déclarés justes. Donc Jésus a accompli cela pour que nous soyons déclarés justes, pour que Dieu, lorsqu'il nous voit, il nous voit justes. Jésus a payé le prix. Et il ne faut pas oublier non plus que la justification, en fait, c'est Dieu qui justifie, qui décide, il déclare que tel est juste. Nous l'avions lu tout à l'heure. Elle est instantanée. La justification est instantanée. Elle n'est pas progressive. Ça a été déclaré au départ. Et nous pouvons le lire aussi. On reste dans Romains, chapitre 8. Nous allons prendre Romains, pardon. Romains, chapitre 8, verset 33. Qui nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est ce qu'on a dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, une fois de plus, c'est une assurance devant Dieu, devant notre Père et même devant les humains. Nous savons que Jésus ne dort pas. Il est en train de prier, d'intercéder le Père pour nous. Nous qui sommes les élus. Et cela doit nous rassurer, demeurer en paix. Même si les choses ne fonctionnent pas, mais nous savons que nous avons un avocat auprès du Père qui est là, qui veille, qui intercède, qui voit nos douleurs, qui voit nos difficultés. Il est en train de parler à notre Père pour nous. Donc pour tout cela, nous devons demeurer en paix. Dieu nous a justifiés et j'ai dit que la justification est instantanée, mais la justification vient après quoi? Après la repentance. Parce que si on ne se repent pas, un pécheur qui ne se repent pas ne peut pas être justifié. C'est logique. Donc c'est la repentance, le fait d'accepter sa condition de pécheur, d'avoir reconnu que jusque-là, nous étions ennemis de Dieu, reconnaître notre mal, que le Seigneur va nous justifier. Sans cela, ce n'est pas possible. Et on va retrouver cela dans Galates chapitre 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Qui nous dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc nous savons que les œuvres de la loi n'ont pas permis à nos aînés d'être justifiés. Donc c'est Dieu qui nous déclare juste et cette justification-là, nous y entrons par la repentance. Maintenant, nous allons voir le deuxième point. Donc là, on a parlé rapidement de la justification qui nous rassure. On va maintenant parler de l'adoption. qui pour moi est vraiment la merveille que Dieu a livrée aux humains à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et nous allons lire dans un premier temps Exode chapitre 4, verset 22. Exode 4, 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, mon premier-né. Généralement, lorsqu'il y a un premier-né, il y a une suite. Certains qui viendront après. Et nous sommes venus après. Israël est le premier-né. Il dit, mon fils. Nous voyons cette belle déclaration que notre Père a adressée à Israël. Mais plus tard, Israël s'est éloigné de notre Père. Et nous allons voir ce qu'il va nous dire à notre sujet. C'est dans Galates, chapitre 3, verset 26. La Bible nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà la plus grande des bénédictions. Je suivais un reportage télé d'une famille française qui avait adopté un enfant malgache. Cet enfant malgache était malade. Je crois que c'était la trisomie, quelque chose comme ça. Ils l'ont adopté. Ils l'ont amené ici en France. Et cet enfant-là était traité comme les autres enfants de la famille. Arrivé à un moment donné, l'enfant ne pouvait plus suivre la scolarité normale. Et la maman a dû arrêter de travailler pour s'occuper de cet enfant-là. Et donc, cela m'a vraiment touché, cela m'a impressionné. Et j'ai vu l'adoption que Dieu a accomplie en notre faveur. Cet enfant qu'il ne connaissait même pas, et c'est notre cas, il ne nous connaissait pas. Bon, Dieu connaît tout le monde, mais comme étant ses enfants, il ne nous connaissait pas. Et il nous a fait la grâce de venir nous chercher. Pas seulement pour être un serviteur, mais pour être fils. Pour faire partie de la maison et pour devenir co-héritier avec Jésus-Christ, bien-aimé. Moi, lorsque je suis revenu sur l'adoption, sur ce qu'on appelle une doctrine de l'adoption, je suis émerveillé face à cela et je me dis, mes problèmes du moment, les difficultés que je rencontre, tout cela n'est rien à partir du moment où Dieu me reconnaît comme étant son fils. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier, bien-aimés. Tu es fils, tu es fille de l'Éternel des armées, celui qui a créé la terre et les cieux. Mais si tu es conscient de ce statut-là, personne ne pourra te perturber, t'emmener à penser à certaines choses, dire que non, ta condition n'est pas normale, peut-être que tu es maudit, peut-être que tu es maudite, à dire certaines choses, tu dois rechercher telle, tu dois briller. Non. L'objectif du fils, mais c'est de continuer à avoir les faveurs de son père. Et nous verrons un peu plus tard comment avoir les faveurs de notre père. Voilà ce que Dieu, l'Éternel, ce Dieu puissant, ce Dieu qui n'a même pas besoin des humains, a manifesté. Et nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a dit, à notre Seigneur a dit à Zachée, au sujet de Zachée. Lorsque les sacrificateurs ont essayé de parler, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chercher et sauver. Ce Dieu très haut est descendu jusque-là sur cette terre de péché. Il a pris une forme humaine. Nous avons certainement déjà entendu des enseignements sur ces thèmes-là, mais je voudrais bien aimer attirer notre attention beaucoup plus sur l'adoption et les conséquences de l'adoption. Cela va nous emmener vraiment à vivre notre vie chrétienne dans la stabilité. Amen. Nous serons stables. Nous ne serons pas perturbés. Nous ne serons pas perturbés face aux épreuves. Même si les épreuves ont tendance à nous dépasser. Mais notre Père a dit dans Matthieu 10, ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Mais cependant, il n'en tombe pas un seul à terre sans que Dieu ne l'ait voulu. Vos cheveux sont comptés. Les cheveux. Est-ce que nous accordons une telle importance? Est-ce que nous connaissons le nombre de nos cheveux? Loin de là. Quelquefois, nous les négligeons. Mais Dieu néglige pas ce détail-là. Il connaît parfaitement. À plus forte raison, les soucis de nos cœurs, nos défis, nos préoccupations, nos difficultés. Notre Père connaît tout cela et il veille. Amen. N'oublions pas que nous sommes fils. Permettez cette répétition, bien-aimés. N'oublions pas que nous sommes fils. Nous allons lire dans Galates chapitre 4. Nous restons dans Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Ce que notre Père a manifesté à travers Jésus. On nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà l'objectif, le but de Dieu. Il l'a envoyé, pourquoi ? Pour que nous recevions l'adoption. Que nous entrions dans cette famille merveilleuse. Il y a tellement d'autres passages, bien-aimés. J'en ai retenu plusieurs, mais on va encore prendre un dernier concernant l'adoption. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Nous allons lire cela. J'ai dit Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Qui nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Vous avez vu, hein, la justification. Saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté, parce qu'il l'a voulu ainsi. Et mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu te reconnaît comme étant son fils ou sa fille. Mais quelle merveille, bien-aimé, quelle merveille, quelle merveille. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi, te condamner, te critiquer, mais nous avions vu dans un premier temps que le Seigneur, lorsqu'on s'est repenti, nous sommes déjà justifiés. Nous sommes justifiés après la repentance. Et nous sommes en train de voir cette grande bénédiction que Dieu a voulu transmettre à ses élus à travers l'œuvre de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'adoption. Il n'a pas fait de nous des serviteurs. Nous ne sommes pas que dans la cour du roi. Nous sommes dans la maison du roi. Amen. Nous sommes dans la maison. Nous sommes de la maison. Nous sommes dans la maison. Voilà ce que nous devons garder constamment à l'esprit. Et par moments, le diable peut nous emmener à douter de cela. À douter de cela. Il peut nous dire, mais si tu es vraiment fils de Dieu, mais pourquoi tu manques de tel? Pourquoi tu souffres depuis des années? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi? Voilà, des choses liées, des préoccupations correctes, liées à notre parcours terrestre. Mais nous ne devons pas oublier que celui qui est là-haut, celui qui a tout créé, est notre papa, est notre père. Et c'est très important. Est-ce qu'il est impossible de vivre en chrétien si on oublie l'adoption? On se laisse perturber si on est vraiment perturbé, emporté par des doctrines qui ne sont pas bibliques, c'est parce qu'on oublie que Dieu est notre Père. Donc nous devons revenir à cela. Revenir à cela. Et nous allons prendre aussi ce texte que j'aime beaucoup aussi. C'est dans Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. J'aime beaucoup ce passage-là. Cela me rassure, ça va dans le sens de l'adoption. Verset 17, on nous dit, Jésus lui dit, là c'est après la résurrection, hein, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est Jésus qui a dit cela. Je vais vers mon Père, mais c'est aussi votre Père. Notre Seigneur qui est Dieu de toute éternité, Fils de toute éternité, il vient de nous reconnaître comme étant ses frères. Et nous allons continuer le parcours du chemin ensemble, mais pour l'éternité. Mais pour cela, il faut que nous réalisions cela. Il faut que nous réalisions cela. Que Jésus est notre frère. Depuis que nous l'avons reçu, il est notre frère et ceci pour l'éternité. Notre Père est notre Père pour l'éternité. Et nous allons régner avec notre Seigneur. C'est ce que la Bible déclare. Nous l'avions lu tout à l'heure dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et donc, tout cela va nous emmener à quoi? Bien entendu, si nous sommes conscients de notre place dans la maison du Père, si nous sommes conscients de ce que notre Père a réalisé en notre faveur, mais nous allons avoir des comportements qui seront nets et tranchés. Les gens du monde vont voir que non, nous sommes sur un fondement qui est solide. Sur un fondement qui est solide. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Qui nous parle de l'amour de Dieu. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Le monde ne nous connaît pas comme étant des enfants de Dieu. Il ne connaît pas la gloire que nous avons déjà. Dieu seul voit la gloire que nous avons. Les anges aussi voient cette gloire que nous avons. Mais les gens de ce monde ne le voient pas. Pour eux, nous sommes des faibles. Nous sommes démunis. Et ils ne nous... En fait, nous ne sommes pas intéressants à leurs yeux. Mais Dieu seul connaît notre valeur, cette valeur qu'il nous a donnée. Et nous sommes vraiment des privilégiés. Donc, premièrement, lorsque nous sommes conscients de l'adoption, nous allons faire preuve de gratitude envers ce Seigneur-là. Parce que si l'apôtre Jean dit, il dit « voyez », il s'agit de reconnaître quand même ce que Dieu a fait. Il nous a appelé son enfant, voyez cela. Donc la réaction normale, c'est de lui témoigner de la gratitude, de la reconnaissance et bien entendu de l'humilité. Il dit mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a adopté moi? Moi qui étais si mauvais, si méchant, mais pourquoi? Il m'a justifié, il m'a fait entrer dans sa maison, mais pourquoi? Donc on doit être manifesté de la gratitude et nous soumettre à lui. Donc là, c'est le premier sentiment que nous allons manifester. Et la deuxième chose que nous allons manifester, bien entendu, c'est un désir ardent d'être où? De le rejoindre, de rejoindre ce lieu qui nous est promis, ce lieu qui est merveilleux. Et bien aimé, nous devons avoir vraiment hâte d'aller au ciel. Nous devons désirer ardemment d'aller dans ce lieu-là. Et je dirais même mieux, pas juste d'aller dans ce lieu, mais de rencontrer Dieu. Amen. Parce que la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est ça, hein, c'est d'échapper à la condamnation et aller quelque part dans le royaume, dans ce lieu où ils ne seront pas jugés. Ah non, le but du chrétien, Dieu l'a sauvé pour qu'il cherche à l'atteindre. L'objectif n'est pas la recherche systématique de ce royaume. Parce que si on ne s'intéresse qu'au royaume, ça veut dire que le maître du royaume ne nous intéresse pas vraiment. On doit s'intéresser à ce maître du royaume et automatiquement nous aurons le royaume. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me bats pour atteindre le maître des lieux, mais c'est automatique que je serai dans ce lieu-là. Mais si on ne cherche que le royaume, comme certaines personnes se battent, s'approchent de Dieu juste pour sa poche, pour voir ce que Dieu peut leur donner, ça, ce n'est pas bon. L'amour n'y est pas. Dieu veut que nous l'aimions. Et aimer Dieu, ce n'est pas juste aimer juste la terre, le salut. Non, c'est l'aimer lui. Et en l'atteignant, automatiquement, on atteint le royaume. Donc voilà ce que le Seigneur attend de nous. Donc nous devons manifester ce désir ardent d'aller au ciel. Et nous allons lire dans Galates chapitre 4, verset 7. On peut commencer à partir du verset 6 qui nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Voilà. Donc, nous sommes héritiers de ce royaume qui nous est promis. Et donc, nous devons désirer d'aller dans ce lieu. Mais j'insiste bien, ce n'est pas juste ce lieu qui doit nous attirer, mais c'est le Maître, Jésus-Christ, qui doit nous attirer beaucoup plus. Donc, nous devons avoir ce désir ardent-là. Et si nous avons compris une fois de plus ces choses, nous allons cesser de rechercher les expériences que l'on appelle secondaires ici-bas. Chercher à accomplir des miracles, des prodiges, chercher à paraître grand sur la terre. Ce n'est pas l'objectif que Dieu a fixé aux humains. L'objectif, c'est de ressembler à Christ, c'est d'atteindre Christ et d'attendre aussi avec patience le royaume qui sera révélé plus tard. Voilà ce qu'il attend de nous. Et nous allons prendre ce texte, le dernier, qui concerne l'adoption dans Romains 8, chapitre 15. Il nous dit, et vous n'avez pas... Bon, verset 14, on peut reprendre aussi verset 14. On nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'avais dit tout à l'heure ici? C'est d'atteindre Christ. Et même en lisant là, nous remarquons quelque chose. On dit, si vous êtes enfant, vous êtes aussi héritier. Ça veut dire héritier du royaume. Mais c'est d'abord l'enfant. Et dit bien enfant, relation d'amour. Et automatiquement, vous êtes aussi héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc la gloire viendra plus tard. Voilà ces annonces merveilleuses que le Seigneur nous révèle et qui doivent nous rassurer par rapport, lorsque nous sommes dans des moments de doute, lorsque nous nous posons des questions, nous devons nous accrocher à la parole. Et souvent, c'est parce que nous négligeons la parole, comme nous l'avions vu tout à l'heure dans Osée, qu'on se laisse malmener par l'ennemi, qui n'utilise que ces temps-là pour nous perturber, pour nous amener, pour nous enlever notre foi, notre espérance, afin que nous n'entrions pas dans ce plan merveilleux que notre Père a établi d'avance pour nous, sur notre vie. Ce n'est pas un projet de paix, nous le savons, c'est un projet de bonheur que notre Père a réservé pour nous. Voilà une bonne annonce que le Seigneur nous fait et je nous interpelle tous à prêter vraiment attention à cela afin d'être des hommes et des femmes qui disposent d'un fondement solide dans leur foi. Et nous allons voir l'avant-dernier point qui est la sanctification. Donc nous avons vu la justification qui est une déclaration de Dieu qui vient immédiatement après la repentance. Et nous avons vu l'adoption que Dieu a déclaré, qui a fait de nous ses enfants, et la sanctification qui est plus ou moins la conséquence de ces deux situations que je viens de noter. Donc le premier texte que nous allons voir, c'est dans Romains chapitre 8. On reste dans Romains chapitre 8, verset 9. Dire que la sanctification, bien entendu, c'est un changement intérieur qui est instantané, qui est radical. Romains 8, verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vivre selon l'esprit, la sanctification. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous connaissons très bien cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est instantané. Un changement intérieur radical, le point de départ. Toutes choses sont devenues nouvelles si nous sommes en Christ. Mais nous verrons que plus tard aussi, la sanctification, c'est aussi un processus. Lorsque nous laissons la parole de Dieu travailler en nous, nous nous sanctifions, nous progressons dans cette voie du Seigneur. Mais le fondement est d'abord là. Donc le point de départ, c'est la nouvelle naissance en Christ. Et nous allons aussi prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7, qui nous rappelle que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu qui agit en nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. On nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer. Chapitre 4, hein? Versets 3 à 7. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà l'appel de Dieu. C'est pour la sanctification. Dès qu'il se révèle à nous, il nous donne cette capacité, son Esprit Saint, qui nous rend capables de désirer la sanctification. Progressivement, d'abandonner certaines choses que nous faisions qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous savons que c'est ce qui était attendu du peuple d'Israël, du peuple juif. Lorsqu'il avait choisi ce peuple-là, c'était pour que, nous l'avions lu tout à l'heure, hein, pour qu'il soit un peuple saint. Pour qu'il soit un peuple saint. Et il n'avait pas atteint cet objectif. Et là, Dieu vient nous rappeler cet objectif-là. Nous devons être saints et irréprochables, nous approcher de Dieu. C'est vrai, nous sommes des humains. Dans notre marche, il peut nous arriver de chuter. Mais lorsque nous chutons, nous ne devons pas oublier que nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur auprès de Dieu pour nous, qui a déjà accompli l'œuvre purificatrice auprès du Père. Et cela doit nous amener à nous relever tout de suite et à continuer la marche avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, donc que nous venons de lire. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, c'est aussi un texte que j'aime aussi particulièrement. Pierre 1, 16 qui nous dit, on peut reprendre aussi à partir du verset 15, on nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Nous pouvons atteindre cet objectif-là. Pourquoi? Nous savons que ce n'est pas par nos forces, mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Celui qui est en nous, qui a vaincu le monde. Amen. Qui peut nous rendre capables d'avancer malgré l'adversité, de poser des actes que notre Père agrée. Le Saint-Esprit est vraiment notre aide, qui va nous encourager, qui va nous parler et qui va nous aider à avancer. Et nous pourrons prendre aussi 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Donc ces versets-là, bien aimés, c'est exprès que j'ai quand même pris beaucoup de versets. Cela va nous permettre aussi, pour ceux qui le peuvent, à noter, à les noter. Et cela peut nous aider. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Qui nous dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc c'est par l'Esprit du Seigneur qui agit en nous. Lorsque nous voulons faire telle chose, quelquefois l'Esprit nous reprend et dit non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ou peut-être lorsque nous avons déjà posé l'acte, il va nous reprendre. Dis-nous, ce que tu as fait là n'est pas bon. Et cela va t'emmener à te repentir et à ne plus commettre le même acte. Et donc, nous sommes transformés et nous avançons vers la sanctification que notre Père attend, que notre Père désire. Voilà ce que le Seigneur veut produire à travers nous. Et il ne nous a pas laissé sans armes, sans munitions, loin de là. On a vu avec le peuple d'Israël, ils n'ont pas réussi à atteindre Dieu par la loi. Dieu, dans sa grâce, a accompli l'œuvre par son Fils et il met en nous, comme il a dit dans Jérémie 33, il a inscrit sa loi dans nos cœurs. Et il nous convainc, il nous enseigne et il nous aide à poser ce qui est juste, ce qui est correct. Même si tout n'est pas toujours parfait, mais le Seigneur est là, il nous aide à aller de l'avant. Et ce qui nous rassure. Donc, un autre point, c'est que la sanctification est effectuée surtout par la parole de Dieu. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Nous lirons tout de suite après 1 Pierre 1:23. 1 Thessaloniciens 2:13, on nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. On dit, vous l'avez reçu, ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, mais qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu peut agir dans nos cœurs si nous avons la foi. Si nous lui accordons de l'importance, de la valeur, elle va agir dans nos vies, elle va nous transformer. Mais si nous ne croyons pas, la parole de Dieu ne peut pas agir en nous. Elle ne peut pas nous transformer. Peut-être qu'on nous a connus colériques il y a 5-10 ans. Et aujourd'hui, on demeure colérique. C'est que la parole de Dieu n'a pas agi en nous. Amen. La parole de Dieu ne nous a pas transformés. Donc, si nous sommes dans certaines situations, cette parole doit nous emmener à nous remettre aussi en question. Nous savons que Dieu veut notre sanctification, c'est ce qu'il attend. Et si il a pointé du doigt un défaut en nous, une situation qui n'honore pas son nom, nous devons crier à lui, bien-aimé. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, nous le savons tous. Mais l'objectif, c'est, je l'ai dit, hein, c'est d'atteindre Christ, c'est de progresser. Tous les jours, tous les matins, lorsque tu te lèves, tu dis, Dieu, aie pitié de moi, aide-moi à t'atteindre aujourd'hui. Ouvre mes yeux sur ce que je ne vois pas et qui gêne ma progression, l'approche que je veux établir avec toi. Et le Seigneur est fidèle. Il va nous révéler des choses. Il va nous mettre dans des situations où ce que nous ne soupçonnions pas, qui était en nous, va se révéler. Et nous allons bénir le Seigneur et lui demander de nous aider à renoncer à ces choses-là et à nous engager véritablement dans la voie de la sanctification. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Il nous connaît et il s'attend à ce que nous avancions vers lui. Et j'avais dit tout à l'heure, j'avais annoncé 1 Pierre chapitre 1 verset 23. À chaque fois, je me rends compte que le verset juste d'avant, on doit le prendre, ben on prend le 22. Hein. On dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle création. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Par la parole vivante et permanente de Dieu que nous avons reçue. Et dans Jude, c'est Jude 9, si je ne me trompe pas, dit cette foi que Dieu nous a transmis la foi une fois pour toutes. Nous devons travailler pour cette foi-là. Mais la foi, dans le sens de Jude, en fait, c'est la doctrine chrétienne, c'est-à-dire la vérité que Dieu nous a transmise au départ. Nous devons y veiller, nous devons l'aimer pour que nous ne nous trompions pas de voie, pour que nous continuions à marcher selon la volonté de notre Père. Et les hypocrites, les faux docteurs ne pourront pas nous manipuler si nous aimons cette parole-là. Si nous la chérissons, le Seigneur va veiller aussi sur nous, parce qu'il sait que nous aimons sa parole, nous nous attachons à lui. Et l'un des derniers points que nous allons signaler, c'est que c'est vrai que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît tous. Il connaît les désirs profonds de nos cœurs. Si c'est réellement la bénédiction terrestre que nous désirons, le Seigneur connaît. Si c'est la bénédiction d'en haut, que les humains ne voient pas toujours, il le sait. Et moi, personnellement, je suis pour la deuxième bénédiction. La deuxième bénédiction, la vraie, celle d'en haut. qui n'est pas palpable, c'est-à-dire la plénitude de la présence de notre Père en nous, la plénitude de Jésus-Christ en nous. Amen. Que nous réalisions que nous sommes des enfants adoptés. Dieu nous connaît individuellement. Nous sommes frères de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et celui qui est là-bas, qui se bat, entre guillemets, pour nous. Et comment plaire à notre Dieu, au final? C'est en serrant sa parole dans nos cœurs. Et nous nous souvenons des psaumes 119. C'est un psaume qui est assez long, mais qui est vraiment merveilleux. On peut prendre peut-être quelques passages au hasard. Au hasard. Psaume 119. Donc, c'est cet hymne qui nous parle de la parole de Dieu. De la parole de Dieu que nous devons chérir. Je dirais au hasard, on peut prendre déjà le verset, on peut prendre le verset 70 ou 60, 71, 72. On va prendre ces deux-là. Mais c'est tellement merveilleux, hein, tout ce psaume-là. Si on a le temps, ce serait bien de le relire. Verset 71, on nous dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'éprouve tes statuts, que j'apprenne, pardon, tes statuts. » Verset 72, on dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. » Que mille objets d'or et d'argent, c'est ce que les faux prophètes sont en train d'annoncer aux gens. On leur promet la bénédiction terrestre, vous serez bénis. Et on connaît leur définition de la bénédiction. Ce sont des choses matérielles. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Verset 73, on nous dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Voilà ce que ce grand monsieur demande. Il dit, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Car tes commandements donnent la vie. Tes mains m'ont crié, verset 73, tes mains m'ont crié, elles m'ont formé. Vous savez, cette création, ce n'est pas forcément la création physique, hein, mais c'est la création spirituelle. Amen. Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes une nouvelle création. C'est de cette création qu'il faut... C'est à cette création qu'il faut penser ici. Elles m'ont formé. Et Dieu n'a pas fini de nous former. Il utilise sa parole pour nous consolider, pour nous former, pour que nous soyons solides, forts face à l'adversité, face au vent contraire. Voilà ce que Dieu est en train de faire en nous. Il ne s'est pas arrêté. Il continue son œuvre en nous. Voilà. Donc il y a encore d'autres versets dans le psaume 119 qui parle de l'importance de l'attachement à la parole que nous aussi, nous devons chercher. Nous devons aimer cette parole, bien aimée. Et je le dis souvent à mes proches à la maison, je dis, la relation avec le Seigneur, c'est en réalité, maintenant que tout le monde a cru, que vous avez, je parle de mes filles à la maison, maintenant que vous avez cru, vous êtes responsable. Vous êtes responsable, vous devez chercher Dieu pour vous-même. Et à la maison, peut-être que c'est fautif, mais je dis, hein, à la maison, j'ai institué juste 2 jours de prière familiale, exprès. Les temps où nous allons prier ensemble, c'est juste 2 jours. J'ai dit, le reste, c'est pour vous, c'est exprès, ça ne va pas être tous les jours. Maintenant que vous avez cru, je vais vous laisser vous approcher de Dieu par vous-même. Parce que Dieu veut que cette recherche-là soit volontaire. Peut-être que je vais dire non, tous les jours on se réunit et quelqu'un peut venir en traînant les pieds. Non, Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut que ça soit totalement libre. Totalement libre. Et c'est ce que je leur dis. Et tout en continuant à insister. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que, voilà. J'insiste auprès de tout le monde. Mais je ne veux pas que ça soit forcé, que ce soit libre. Mais bien entendu, lorsque je prie à la maison tout seul, Mais je prie pour tout le monde. J'insiste pour que Dieu amène chacun à avoir une relation personnelle avec lui. Personnelle. Et c'est mon cri de tous les jours. Amen. Et donc, nous allons arriver au dernier point. Lorsque nous avons pris conscience de la justification, de l'adoption et de ce que Dieu veut, notre sanctification, ce travail-là, ce chemin que nous devons prendre, nous pourrons être dans le service. Après, nous pourrons être dans le service. Et nous allons lire 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. De Timothée. Non. 19. On nous dit néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, on dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimé, on a vu les différents mots ici. On a dit, si quelqu'un se conserve pur, donc si la parole de Dieu agit en toi, tu évolues dans la sanctification. Tu dis, Seigneur, aide-moi, telle chose ne va pas, aide-moi. Petit à petit, le Seigneur voit cela et dit, ah, tu deviens un vase d'honneur. Et lorsque tu es dans cet état-là, mais tu seras utile à ton maître pour bénir d'autres personnes, les gens de l'extérieur par exemple, parce que tu te serais purifié par la parole, laisser la parole te purifier, te sanctifier, plutôt se sanctifier, pardon. Voilà ce que le Seigneur veut produire à travers nous. Et quelquefois, on inverse les rôles, le cheminement. On entre dans le Seigneur, on veut tout de suite servir, alors que non. Quelquefois, on a des choses en nous qui ne sont pas correctes. On a de l'amertume, ce qu'on appelle le zèle amer. Ce n'est pas bon. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer dans ces conditions-là. Il ne peut pas se servir de nous dans ces conditions. Il faut d'abord travailler, laisser la parole, désirer que la parole nous transforme profondément. Ainsi, nous serons utiles à notre maître. Le Seigneur parle aussi des vases d'un usage vil ici. Donc lorsqu'on s'engage comme ça, on sait que dans nos cœurs, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de l'orgueil. Tu peux produire des actes, mais ces actes-là, le Seigneur ne va pas les cautionner du tout. Le Seigneur ne va pas les cautionner. Et on avait partagé avec certains bien-aimés, un texte dont c'était dans Jérémie 15, c'était dans Abdias, où il parlait du peuple d'Israël, non pas Abdias, c'est Agé, je crois, du retour de la captivité, lorsque le peuple s'était engagé, en fait il avait laissé tomber les travaux de reconstruction du temple, et qu'il a été repris, il s'est remis à faire ce travail-là. Et malgré son engagement, le Seigneur l'a encore repris. Il a dit non, mais ce que tu es en train de me donner là est souillé. Cela ne me plaît pas. Alors qu'ils avaient pris une bonne résolution de travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit non, c'est souillé. Et je me suis dit, mais pourquoi? Donc c'est l'état du cœur. Donc le Seigneur nous connaît, il connaît l'état de nos cœurs. Et essayons de demander, d'être sincères à Dieu, avec le Seigneur, lui demander de nous aider, afin de nous débarrasser de tout ce qui gêne notre marche avec lui. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 7. On reste dans Timothée. Toute écriture, on nous dit, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, une fois de plus, nous voyons bien, bien aimé ici, on reprend, on nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner le chrétien, pour convaincre le chrétien, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, donc le but de ce qui, voilà, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ça rejoint ce qu'on avait lu tout à l'heure. Lorsque la parole de Dieu agit en nous, nous serons propres à toute bonne œuvre, utiles à notre maître. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que d'abord, il y ait un travail personnel. Ne nous précipitons pas pour accomplir des choses, voilà, peut-être des grandes œuvres, des grandes missions. Non, essayons de regarder à nous-mêmes, bien-aimés. Je le dis cela, c'est sans jugement. Moi-même, je suis concerné. C'est ma prière de tous les jours. Je dis, Seigneur, je sais que je suis loin, loin d'être parfait. Et aide-moi, ouvre mes yeux sur ce qui ne va pas, car je vais avancer. Je vais être utile à mes frères. Mais pour cela, il faut que moi-même, je sois préparé. Donc, c'est la prière que nous devons faire. Et 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 5, nous parle de cela. Nous parle de cela. 1 Pierre 1, verset 1 Pierre 2, 1 à 5. C'est aussi un passage que j'aime beaucoup. 1 Pierre 2, verset 1 à 5. On nous dit, rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, on dit bien, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin, une fois de plus aussi, vous voyez bien la conséquence, hein? On nous dit, je reprends verset 5, mais d'abord le verset 4, parce que c'est un cheminement. On nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On voit bien que le travail commence d'abord par nous-mêmes, hein? C'est ce qu'on a vu ici. Édifiez-vous, afin. Donc le but, on commence par toi, pour que plus tard, tu sois en mesure d'apporter des victimes qui sont agréables à Dieu. Parce que la personne que tu vas emmener à Dieu, mais elle va plus ou moins voir Jésus en toi, elle sera interpellée. Et donc, lorsqu'elle va s'approcher de Dieu, c'est ce modèle-là qu'elle aura copié. Et c'est ce modèle que Dieu agrée. C'est ce que déclare sa parole. Voilà des vérités, en fait, qui nous concernent tous et qui doivent nous interpeller. Faire attention à ne pas oublier ces fondamentaux-là. Ce qu'un chrétien doit connaître. La justification que j'ai effleurée, mais l'adoption. L'adoption, la sanctification, la parole qui doit agir en nous, que nous devons désirer, afin de ne pas nous laisser facilement influencer, perturber par certaines situations ou bien par des fausses doctrines. Demeurons attachés à la parole de Dieu. Demeurons attachés. Et ainsi, nous ne serons pas influencés par ces faux docteurs. Et nous allons prendre juste un dernier passage. C'est dans Jude que j'avais annoncé tout à l'heure. Jude, on peut commencer au verset 17. Jude, verset 17. On nous dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Ce passage est vraiment important, bien-aimés. On nous dit de nous édifier. Je reprends verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Donc, il y a un travail personnel sur votre sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous déclare ici. Mais si on continue, on nous dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Voilà ce que le Seigneur nous déclare ici. Donc, une fois de plus, et c'est ce qu'on ne manque pas de nous rappeler à travers ce que nous faisons en Béréen l'explorateur, c'est l'objectif, c'est de mieux connaître le Seigneur. Non pas, on nous l'a dit, juste pour augmenter notre connaissance intellectuelle, mais c'est pour nous approcher de Dieu, mieux connaître Dieu pour le servir. C'est comme il est écrit dans Osée 6, connaissez et cherchez à connaître le Seigneur. Donc lorsque nous connaissons, point de départ, la prochaine étape, c'est de chercher à mieux le connaître. À mieux le connaître pour mieux le servir, pour mieux demeurer dans sa volonté. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce temps que nous venons de passer en ta présence, Seigneur. Nous sommes des pauvres humains. Nous sommes par nous-mêmes faibles, mais nous savons que grâce à ta présence dans nos vies, nous sommes plus forts, nous sommes forts, plus que vainqueurs. Et Seigneur, nous te disons merci pour la victoire que tu nous as accordée et surtout pour l'adoption, cette bénédiction qui doit nous rassurer, qui doit nous amener à ne pas nous inquiéter du lendemain, comme le déclare Matthieu 6, 33, mais de rechercher uniquement le royaume et la justice de Dieu. Car tu ne nous oublies pas. Et encore merci de nous garder dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen.